Bonjour, nous sommes le lundi 18 novembre, il est 14h, vous écoutez Radio Campus Paris et c'est l'heure de la relève.
La relève sur Radio Campus Paris.
Comme toutes les semaines, la relève, c'est 30 minutes avec tous ceux qui créent. Aujourd'hui, on va parler feu de la rampe et persuasion. Aujourd'hui, on part à la découverte du cerveau. Bonjour Mathieu Villatel. On peut vous voir actuellement au théâtre de Belleville qui se trouve à proximité du métro du même nom, ça tombe bien, les mardis et les mercredis. C'est 11 euros pour les moins de 26 ans, voilà, j'ai tout fait. Et pour l'expérience qu'ils vont vivre, je peux leur dire que ça n'est pas cher. Alors comment est née l'entreprise Cérébro ?
Je suis mentaliste moi et du coup j'avais envie de travailler autour de la persuasion, comme tu disais, et la confiance. Et je me suis intéressé pas mal aux techniques de manipulation des sectes notamment. Et donc j'ai monté un spectacle de mentalisme qui propose aux gens une expérience interactive.
Et donc, à partir de cette entreprise Cérébro, alors qu'est-ce qu'elle fait, cette entreprise ?
Alors, c'est un spectacle Cérébro, mais je le vends comme un programme de développement personnel qui propose aux spectateurs de leur donner des secrets pour développer leurs capacités physiques et mentales.
Tu t'es inspiré de vraies techniques de manipulation, de vraies techniques utilisées par des coachs ou des gens comme ça ?
Alors ouais, quand j'ai commencé à m'intéresser à ça, je suis rentré à la scientologie pour voir un peu justement de l'intérieur comment eux fonctionnaient. Et en effet, ils se présentent plutôt comme des coachs qui vont t'aider dans tes problèmes, hein, parce que moi j'ai été les voir parce que j'avais des problèmes à l'époque.
C'est comme ça
que je me suis présenté. Ça va mieux. C'est grâce à eux.
Ils sont connus pour avoir un questionnaire à remplir.
Tout à fait, ouais. Et du coup, on retrouve ce questionnaire dans le spectacle. On en a parlé il y a quelques instants. Et ils proposent vraiment de vous aider, de s'adapter à vos besoins en termes de coaching.
Toi, tu connais les clés du fonctionnement du cerveau ?
Alors, pas plus que toi. Je connais les clés qu'on utilise, nous, en tant que magiciens. Donc, on a quand même quelques outils inconnus du grand public, disons. Mais après, je m'y intéresse. Mais je ne suis pas un professionnel de la question, non.
Mais qui êtes-vous ? Cérébro possède des outils et des méthodes pour vous aider à trouver vos propres réponses aux questions de la vie.
Ce soir, je suis là pour vous. Tous ceux qui parmi vous vont suivre ces stages vont apprendre à mieux gérer leur stress. Ce programme, il va peut-être changer vos vies. Est-ce que vous êtes prêts à vivre l'expérience Cérébro ? Est-ce qu'il y a des gens autour de vous qui vous mentent, Laura ?
Non, je pense pas.
Jacques Simon dit toujours, c'est quand on commence à croire vraiment aux choses que les choses peuvent commencer à arriver. Agnès, moi j'ai confiance en vous, j'aimerais que vous aussi, vous ayez confiance en vous. Est-ce que vous pouvez faire ça pour moi ? Vous pouvez nous lire les différentes émotions qu'il y a sur ce cube ?
Joie, amour, timide, peur.
Harald, est-ce que ça vous est déjà arrivé d'être infidèle dans vos relations ?
Oui.
Oui, ça vous est déjà arrivé ? Regardez-moi, Harald.
Oui.
C'est la timidité que vous avez lue sur le cube, c'est ça ?
Oui.
Allez-y, vous pouvez commencer, vous avez 2 minutes. Maintenant, c'est le moment où on va parler d'argent. Si tu dois investir sur quelque chose, investis sur toi. Ce soir, exceptionnellement, juste pour vous, on fait une offre promotionnelle sur 3 stages. J'ai mis une bouteille dans un sac. Le but du jeu va être d'écraser les autres sacs avec sa main. Qui vient ?
Alors on est toujours avec Mathieu Villatel, vous jouez ce spectacle Cérébro actuellement au théâtre de Belleville, un spectacle que vous avez écrit avec Kurt Demey qui est aussi le co-metteur en scène, c'est ça ?
Oui, c'est ça, c'est un magicien belge, flamand.
Alors là à l'instant, vous dites qui vient, est-ce qu'il y a toujours quelqu'un qui vient ?
Oui, toujours. C'est assez étonnant, mais c'est une expérience assez risquée qui arrive à la fin du spectacle et on demande à à qui veut venir prendre des risques avec moi. Et au début, on pensait que personne viendrait. Et donc, on prévoyait même ça à l'avance. J'allais voir quelqu'un avant le spectacle en lui disant, voilà, je vais proposer aux gens de venir et peut-être personne va venir. Donc, si vous, vous pouvez venir, ça m'arrangerait. Ce serait vraiment super. Et les gens s'engageaient à venir sans savoir pourquoi. Et à la fin, quand ils voyaient l'expérience, comme ils s'étaient engagés, ils se levaient, mais ils étaient dégoûtés parce que ça avait l'air super dangereux vu du public. Donc, ils venaient, mais ils n'avaient pas du tout envie de venir. Mais comme ils s'étaient engagés auprès de moi avant, bah, ils venaient. C'était pas très sympa. Et en fait, on a arrêté parce qu'il y a toujours des gens qui sont motivés pour venir tenter l'expérience.
Ça veut dire que le public, finalement, vous surprend par sa capacité à accepter le jeu ?
Oui, alors je sais pas si c'est me surprendre dans le bon sens. Un peu, oui. Et en même temps, on est au spectacle. Donc, quelque part, on se sent aussi protégé par... par le ouais. cadre.
Il y a certes le cadre qui protège, mais en même temps, il y a, comme c'est bien fait, il y a un moment où on peut se faire prendre. Je crois que vous dites vous-même que parfois, il y a des gens qui viennent vous voir et qui vous engueulent presque parce qu'ils vous trouvent très antipathique.
Ouais, complètement.
Qui vous confondent avec le personnage, spectacle. Pratiquement.
Oui, c'est un personnage qu'on n'aime pas trop. Et comme c'est un seul en scène, c'est vrai que quand le spectacle se termine, il y a une rencontre où on discute parce qu'ils ont besoin un peu de ce moment de décompression, je crois, après le spectacle, qui peut être un peu oppressant pour certains. Il y a plusieurs niveaux de lecture, il y a des gens qui rentrent complètement dedans et qui du coup sont très oppressés, et puis d'autres qui regardent ça peut-être un peu d'un autre œil, qui comprennent tout de suite où on est en train de les amener, et qui du coup, ça fait peut-être plus sourire, ou là, les gens qui nous écoutent, s'il y en a qui viennent, ils auront déjà un peu le décryptage, donc ça ferait plutôt partie de cette deuxième partie de personnes qui regardent le spectacle en sachant où on est en train d'aller. Et du coup, ça les fait plutôt sourire, ces gens-là.
C'est jouissif de jouer un personnage désagréable ?
Alors, c'est pas vraiment jouissif, non, parce que c'est pas très agréable. En effet, il y a d'autres spectacles où les gens, par exemple, applaudissent beaucoup plus à la fin. Là, ils sont dans un sentiment un peu pesant de mal-être. Donc, je crois pas que pour le comédien, ce soit quelque chose de jouissif, non. Mais c'était important pour ce projet. J'avais l'impression, en travaillant dessus, que c'était même obligatoire, en réalité.
Dans ce spectacle, il y a, dans la présentation que l'on fait le théâtre de Bellevue, il y a cette phrase « Si vous ne savez pas comment fonctionne votre cerveau, d'autres sauront le faire fonctionner pour vous ». C'est ouais. ce que vous voulez dire au public qui vient ? C'est mettre en garde ?
Ouais, je pense que c'est l'idée de ce spectacle. En effet, c'est de sensibiliser les gens sur les techniques de manipulation. On dit souvent que le mot secte, il est un peu vieillissant. C'est vrai qu'on en entend de moins en moins parler. Mais moi, je crois que le système sectaire, en tout cas, est lui encore très contemporain. Là, il y a quelques articles qui viennent sortir. Là, il y a pas mal de jeunes qui se font avoir par le marketing multiniveau. Donc, c'est des systèmes pyramidales, qu'on n'appelle pas comme ça, évidemment, puisque maintenant, c'est interdit en France. Mais des systèmes américains de cooptation où, en fait, on touche de l'argent sur nos ventes et sur la vente des gens qu'on va coopter. Et du coup, ces systèmes-là sont encore en place.
Des pyramides classiques où chacun met, et puis après, normalement, on doit retoucher un jour, sauf que voilà, ceux qui mettent ne touchera jamais.
En tout cas, beaucoup moins que ceux qui sont en haut de la pyramide.
Mais ça marche encore.
Ouais, de plus en plus, ça se développe. Là, c'est en train d'arriver en France de façon très discrète, mais ça passe par les réseaux sociaux, une fois.
Il y a eu une vague il y a une quinzaine d'années. Enfin, ça revient régulièrement, ça. C'est très marrant, c'est générationnel. Ouais, c'est vrai. Le temps qu'on oublie, ça revient et ça repart pour un tour.
Et sous une autre forme, toujours un peu plus contemporaine, un peu plus sexy. Il y a des conférences maintenant. Et justement, ils sont en train de mélanger ça avec le développement personnel. Et comme il y a des problèmes d'emploi chez les jeunes, l'idée de gagner beaucoup d'argent comme ça, sans faire grand-chose, en restant chez soi, ça donne tout de suite très envie.
Et puis c'est magique, quoi. Donc c'est magique, mais dans le sens féerie de Noël qui arrive bientôt.
Sans faire grand chose, en effet.
Vous êtes magicien, vous êtes intéressé au mentalisme. Qu'est-ce que c'est précisément le mentalisme ? C'est un enquêteur qui résout des énigmes grâce au pouvoir de son esprit, comme à la télévision ?
Ouais, alors ça, c'est malheureusement le fantasme. Hein. C'est qu'on a très envie que le mentaliste soit un expert, en effet, des micro-expressions, de la manipulation, de la lecture de pensée. Mais non, le mentaliste, c'est un manipulateur, c'est un magicien.
Donc vous n'avez pas un cerveau avec des pouvoirs surdimensionnés ?
Non, malheureusement, non. Le mentaliste, il utilise les mêmes outils que le magicien, le détournement d'attention, le trucage, la manipulation. C'est-à-dire qu'il fait croire qu'il lit dans les pensées, mais évidemment, il ne lit pas dans les pensées.
Heureusement.
Heureusement aussi.
Et il y a des mentalistes qui vous en veulent justement de venir et de dire ça. Là, un micro est aussi pas mal sur scène, vous le dites aussi ça.
Ouais,
il y en a gens qui disent, mais qu'est-ce que tu fais là, tu es en train de... Un coup je vous vois, un coup je vous tutoie, c'est amusant. Et, qu'est-ce que tu fais ? Tu révèles notre métier, c'est moche ?
Alors, je ne sais pas. Les magiciens et les mentalistes vont pas forcément voir beaucoup de spectacles. J'en ai pas rencontré tant. Le peu que j'ai rencontré,
il n'y a pas un syndicat des mentalistes ?
Non, alors le secret est important. Dans la magie, je dévoile pas vraiment les tours. Je trouve pas que de dire que le mentalisme c'est faux, ce soit un problème en réalité. C'est-à-dire que les gens, ils continuent de rêver, ils savent pas comment les expériences marchent. Et le magicien, on sait qu'il triche, il est honnête. Enfin, je veux dire, on sait qu'il y a des trucages et tout ça, mais sur le mentalisme, c'est plus flou. Et moi, je comprends pas l'idée de garder cette frontière un peu floue.
Oui, parce que c'est ce qu'on disait à l'instant, mais c'est que dans le mentalisme, il y a cette idée que c'est quelqu'un qui a des super pouvoirs, donc qui arrive à voir des trucs que les autres voient pas.
Soit un expert de la programmation neurolinguistique, du décryptement, du langage corporel et tout ça, ce qui est assez faux aussi en réalité.
Et donc, ça s'apprend, le mentalisme ?
Oui, tout à fait. Dans des écoles de magie, dans des bouquins, vous pouvez en effet apprendre le mentalisme.
Et justement, si on veut devenir magicien, on va à l'école, on s'inscrit, n'importe qui peut le faire ou faut être coopté ? Il y a des gens qui viennent pour savoir comment ça marche, par exemple ? Ou non, il faut quand même avoir un projet derrière de spectacle ?
Non, il y a des gens qui commencent. Enfin, moi, j'ai commencé la magie par hasard, juste en allant acheter des bouquins et des DVD. Alors, sur Internet, il y a des boutiques de magie aussi à Paris où vous pouvez vous équiper. Si vous voulez commencer le mentalisme, il y a la Bible du mentalisme, c'est le 13 Step to Mentalism de Corinda. Et là-dedans, vous avez vraiment toute la base de ce qu'est le mentalisme. Et du coup, de la création de croyances, qu'est-ce qui fait qu'on va pouvoir faire croire aux gens qui sont libres de faire des choix, alors qu'en fait, ces choix sont forcés, par exemple.
Et est-ce qu'il y a des gens qui ont étudié et qui montrent, par exemple, que les techniques de persuasion et de mentalisme ont les mêmes sources ? On sait si les uns et les autres se sont inspirés mutuellement ?
Non, pas réellement, parce que nous, on triche, hein, vraiment.
Vous, déjà, vous trichez, parce que quand on va voir le spectacle, on sait dans un cadre défini, spatial et temporel.
Voilà, c'est ça. Ce que fait le mentaliste sur scène ou pendant des expériences, il a souvent besoin d'un support, d'outils. Un mentaliste qui vous dit comme ça, pense à un objet, qu'il le retrouve, alors ça, ce serait quelqu'un qui est vraiment capable de lire dans les pensées, mais si vous faites attention, il passe toujours par un support, un bout de papier, un livre. Il y a toujours quelque chose qui se passe au niveau de l'écrit, c'est-à-dire que personne n'est capable de lire dans les pensées. En tout cas, pour l'instant, je n'ai pas rencontré ce genre de personne.
Et puis, il y a l'écrit et puis il y a le langage, parce que c'est toujours des gens qui parlent beaucoup. C'est comme
l'imagine. En effet, le langage peut être un très bon outil de manipulation. Ouais. La linguistique, on est obligé de la maîtriser en spectacle. En tout cas, c'est très écrit, un spectacle de mentalisme.
Quels sont les magies ? Ah oui. C'est un travail d'écriture d'abord ?
Oui, parce que les mots sont importants, ne veulent pas dire la même chose et on n'obtient pas la même chose des gens en fonction des mots qu'on utilise.
Quels sont les magiciens qui vous inspirent ?
Il y en a plein. Il y en a un que j'aime beaucoup, on est nombreux dans ce cas-là, c'est Derren Brown, c'est un Anglais qui justement a commencé à parler du mentalisme et à le rapprocher de la psychologie sociale. Donc à faire croire que ce qu'il faisait, c'était plutôt des expériences de psychologie sociale, de connaissance de l'être humain et tout ça. Mais bon, il utilise des techniques de mentalisme, de magicien lui aussi.
Mais il y a des écoles comme ici, souvent des acteurs, des écrivains, ils ont toujours des traditions. Est-ce que là aussi, il y a des écoles, on se rattrache plutôt à Houdini ou à David Copperfield?
Il y a peut-être des mouvements et des styles, mais par contre, une école, pas vraiment. Il y a le CNAC, le Centre National des Arts du Cirque, qui propose une formation magie nouvelle à Châlons-en-Champagne, qui donne un peu des outils de magicien à d'autres artistes pour pouvoir amener de la magie dans des spectacles. Mais je pense que pour devenir magicien, c'est un travail d'autodidacte quand même, principalement.
Là, on est à la radio. Est-ce qu'on pourrait faire du mentalisme à la radio avec des auditeurs qui...
On pourrait y arriver. Quelque chose qui marcherait pas sur tout le monde.
Il y a personne qui va appeler, hein, mais je dis, c'est pas un piège.
On peut essayer quelque chose qui marcherait pas sur tout le monde. Je vais vous proposer de penser à un objet.
Ça y est.
Voilà, vous allez prendre la dernière lettre de votre objet. Et avec la dernière lettre de votre objet, vous allez essayer de trouver un pays qui commence par cette lettre. Mmh. Si vous ne trouvez pas de pays, il faut changer d'objet.
Ah, d'accord.
Une fois que vous avez un pays qui commence par cette lettre, vous allez prendre la dernière lettre de votre pays.
Oui.
Et vous allez essayer de trouver une pierre précieuse qui commence par cette lettre.
Oui.
Voilà. Si vous l'avez, pour pas mal de gens, ce serait le mot émeraude qui ressort.
Mais oui.
Ouais,
mais
voilà.
Oui.
Et j'imagine que ça marche aussi sur les auditeurs.
Puisque j'ai pensé à lunettes, Éthiopie, émeraude.
C'est ça.
Et vous êtes très fort.
Bah, y a beaucoup, en fait, pour décrypter un peu maintenant, souvent on a l'impression d'être assez libre, c'est-à-dire qu'il y a plein d'objets, on se dit mais j'avais un choix incroyable d'objets, mais il y a quand même beaucoup d'objets qui terminent par la lettre E. Il y a aussi beaucoup de pays qui se terminent par la lettre E. Et donc du coup, on a quand même, je sais pas, peut-être 60-70% des gens qui vont finir avec cette lettre E et qui du coup vont tomber sur l'émeraude.
Qu'est-ce qui vous a donné envie d'être magicien ?
Alors, je crois que ça nous tombe un peu par hasard.
Ouais, mais après, on fait le choix d'en faire un métier.
Oui, alors on se fait un peu attraper aussi, parce que de faire de la magie, ça donne du pouvoir, ça nous donne un savoir que les autres n'ont pas, et c'est quelque chose d'assez excitant, surtout quand on est jeune.
Mais vous aviez quel âge quand vous êtes tombé dedans ?
J'ai commencé à 15 ans.
Ouais, donc c'est ça.
Assez tard au final pour un magicien.
C'est quoi ? C'est le plaisir de faire du tour de magie en famille, à la fin du repas ?
Ouais, en famille, avec les amis. Les la amis. Place que ça vous donne au départ, ça donne une place particulière, parce que du coup, on a envie de savoir comment ça fonctionne et tout ça. On est un peu celui qui sait, en tout cas, qui sait comment marche le tour. Et au fur et à mesure, bah voilà, mon travail est devenu avec la magie plus artistique. Mais...
Et donc, ouais, c'est ça, c'est qu'après, vous l'avez intégré à votre travail de comédien.
Oui, alors je me suis ensuite formé plus tard en tant que comédien, parce que je trouvais que justement, j'avais envie de défendre des textes un peu plus profonds que de faire du divertissement. Et puis, bah, j'ai rencontré Thierry Collet, qui est un magicien français. Qui du coup lui travaille de façon plus engagée avec la magie, et ça m'a montré qu'on pouvait faire des choses très intéressantes.
Ouais, il utilise la magie et les nouvelles technologies.
Alors là, dernièrement, ses spectacles en effet sont sur les nouvelles technologies, ouais. Sur l'intelligence artificielle et ce qui nous attend dans le futur.
Et donc, et ça, c'est ce qui vous a fait, c'est par ce biais-là que vous l'avez intégré à votre travail d'acteur ?
Ouais, ça m'a, en tout cas, il m'a montré aussi que c'était possible de faire des choses intéressantes avec la magie. Et...
Thank you. Ariel Pink, Stray Here With You, extrait de l'album Oddities Sodomies volume 2, car il y avait un volume 1 pour les amateurs.
La relève sur Radio Campus Paris.
On est toujours avec Mathieu Villatel et son spectacle qui vient nous parler de son spectacle Cérébro actuellement au Théâtre de Belleville. Est-ce que c'est compliqué de convaincre un directeur de théâtre qui d'habitude fait des pièces de venir jouer un spectacle de magie, ou est-ce qu'il se dit « oh là là, c'est ringard la magie » ?»
Ouais, c'est vrai que Laurent, il fait plutôt...
Laurent, c'est qui ?
Ah, Laurent Roussy, le directeur du Théâtre de Belleville, lui, il fait plutôt du théâtre, enfin même exclusivement du théâtre. Et j'ai réussi à le faire venir sur un test public pendant la création du spectacle, en fait. Il est venu et du coup, il a trouvé ça intéressant et il m'a dit « Ok, banco, on fait ça au Théâtre de Belleville ». Et je crois que c'est la première fois qu'il accueille de la magie, en effet.
Et globalement, le monde du théâtre est assez ouvert sur ce monde-là, ou c'est des mondes hermétiques qui ne se parlent pas trop ?
Non, je crois que c'est assez ouvert. Après, en effet, même toi, tu me disais ça tout à l'heure, la magie, elle a un côté encore un peu kitsch pour certaines personnes. Je crois qu'il y a encore des gens qui ont cette idée du magicien avec le chapeau, la cape, l'assistante.
Ouais. Ouais, l'assistante, elle est en maillot de bain, en général à paillettes.
C'est ça. Et je pense que quand on vient de voir Cérébro, on est un peu à des kilomètres de ça. Mais...
Justement, toi, tu avais envie de casser cette image, de faire un spectacle qui montre autre chose de la magie ?
Je ne sais pas si je me suis vraiment posé cette question-là.
Est-ce que tu pourrais faire ça ? Alors à l'inverse, est-ce que tu pourrais faire ce que fait... Moi, je dis toujours David Copperfield parce que je suis un peu vieux et que c'est ma référence. Il doit y en avoir d'autres maintenant.
J'ai un autre spectacle avec un autre magicien qui s'appelle Rémi Berthier, qui joue à l'Apollo Théâtre, qui s'appelle Les Illusionnistes. Et pour le coup, c'est un duo de magiciens et on se moque un peu de ces codes-là. On se moque un peu du magicien tout-puissant, de l'assistante, de la paillette. Et du coup, ça, voilà, je ne pourrais pas le faire au premier degré, mais par contre, je peux le faire au second degré en m'amusant autour de ça. Mais là, sur Cérébro, c'était plutôt de se servir du mentalisme comme outil pour défendre un projet autre. Voilà, c'était pas vraiment... Pour moi, c'est presque pas un spectacle de magie, Cérébro. Il y a de la magie tout le temps, mais c'est pas ça qui est le plus important dans le spectacle.
J'imagine tu connais le test de Milgram, l'expérience de Milgram, celle qu'on peut voir dans le film Icom Icar de Costa Gavras, qui montre le rôle de la figure d'autorité dans toutes ces expériences de manipulation. La question que j'ai envie de te poser, c'est est-ce qu'il n'y a pas aussi un plaisir à être manipulé Alors, au spectacle, c'est évident, on y va pour ça, on retrouve un plaisir d'enfant. On dirait qu'on peut savoir des choses en fait qu'on peut pas savoir.
Oui, mais après le terme manipulation, souvent on le voit de façon un peu négative, mais pour nous en tant que magicien, on manipule aussi des cartes par exemple. La manipulation, c'est pas toujours négatif. Et en effet, je pense que nous on a tous plein de facettes, c'est-à-dire qu'on déteste se faire manipuler, puis en même temps on y prend aussi un peu de plaisir.
Après le spectacle, tu l'as évoqué tout à l'heure, il y a un moment d'échange avec les spectateurs qui est assez long. Qui est une forme de générosité de ta part. En quoi il est aussi important que ça ? C'est vraiment les gens ont besoin de débriefer ce qu'ils viennent de voir ?
Alors, souvent, ils me disent que oui, ils ont besoin d'un sas de décompression un peu après le spectacle. Et puis, je trouve que c'est important aussi de leur donner les codes, un peu ce que je dis là, c'est-à-dire que le mentalisme, c'est un magicien. Je trouve que c'est important parce que dans le spectacle, je ne parle pas vraiment de ça. Et d'expliquer pourquoi j'ai eu envie de leur faire vivre ça aussi, parce que là les auditeurs sont au courant de ce qui se passe, mais souvent quand on vient voir le spectacle, on sait pas trop ce qu'on vient voir, on vient voir un mentaliste.
Il y a des gens moi le soir où j'étais, qui disent je suis venu, quelqu'un m'a invité, je savais pas ce que j'allais voir, et qui se retrouvent là et qui comprennent pas très bien ce qui leur arrive.
Ah oui, je pense que pendant tout un moment dans le spectacle, ils se disent mais mon dieu, qu'est-ce qu'on fait là, qu'est-ce qu'il essaie de nous vendre ce gars, enfin il y a quelque chose d'un peu répulsif, quoi.
Ah oui, carrément.
En tout cas, je pense au départ, et puis on se fait happer, comme tu disais, on passe notre temps à faire des allers-retours, à se dire, ah oui, mais en fait, c'est un spectacle, puis en même temps, on rentre dedans, parce que la magie nous fait plonger à l'intérieur. Donc, c'est des allers-retours permanents. Et je trouve ça intéressant d'expliquer aussi aux gens pourquoi je l'ai créé dans ce sens-là, qu'est-ce que j'ai mis en place pour réussir à les embarquer, pour qu'ils comprennent aussi les outils qui sont utilisés pendant le spectacle, parce qu'on n'arrive pas à les décrypter dans le présent. En fait, on les vit.
Alors, je sais pas si je peux le dire, tu réponds si tu veux à la question. Il y a aussi une vidéo qu'on voit à deux reprises, qui est une vidéo glaçante. On va peut-être pas trop en dire pour que tu puisses garder l'effet surprise de quand on sait ce que c'est. Du coup, je sais pas trop si tu peux.
En tout cas, ce que je peux dire, c'est
pourquoi t'as intégré cette vidéo.
Ouais, voilà. Ce que je voulais montrer avec ça, c'est qu'on peut aussi se faire manipuler par l'image. Alors, on le sait, hein, la plupart du temps, mais je trouve que l'exemple, il est assez court et en même temps assez flagrant. C'est-à-dire qu'on voit des vidéos qui sont assez positives, qui soutiennent plutôt le projet. Et un peu plus tard, on revoit les mêmes vidéos, mais on n'a pas coupé les gens. Donc, on a leur phrase en entier et ce qu'ils pensent.
Et ça, c'est toi qui l'as fait, ce travail-là, ou c'est
ouais, ouais, c'est nous qui l'avons fait, justement, pour montrer que, en fait, en montrant l'extrait qu'on veut et sorti de son contexte, on peut complètement inverser la parole de quelqu'un avec la vidéo.
Est-ce que, justement, puisqu'on parle de tout ça, et tout à l'heure, on parlait du secret du magicien, est-ce que, vu tous les enjeux qu'il y a de manipulation, on parle aujourd'hui de fake news, il y a même une dimension politique de ça, c'est que si on sait manipuler les émotions, on peut faire passer un message. Hein, ça, c'est une des grandes redécouvertes de l'époque, c'est que celui qui sait jouer sur l'émotion du public arrive à, peut faire passer plus facilement un message. Je dis deux fois la même chose, c'est très bien.
C'est la naissance de la publicité.
Ouais, est-ce que ça ne veut pas dire qu'il faudrait finalement les révéler, tous ces trucs ? Est-ce qu'il ne faudrait pas les mettre en open source et les donner au public ?
En réalité, c'est déjà un peu en open source. Hein. Maintenant, avec Internet, si tu sais parler anglais et que tu cherches avec la bonne terminologie sur Internet, tu trouves vraiment quasiment tout, les trucages, quasiment l'explication de tous les tours, hein, sur Internet. Donc ça existe pour les gens qui ont vraiment envie de savoir. Je crois pas qu'il faille expliquer le tour. Par contre, je trouve que c'est important de dire que voilà, c'est du spectacle. C'est un outil spectaculaire. Mais c'est pas la réalité. C'est-à-dire qu'on n'utilise pas les mentalistes pour travailler avec les policiers.
Ce spectacle, tu le joues. On pourrait pas ? Tu pourrais rien apporter aux policiers ?
Non, je pourrais les amuser pendant leur pause.
Dans ce spectacle, tu le joues aussi dans les prisons, les collèges.
Ouais.
C'est important pour toi ?
Alors, je joue pas mal dans les prisons, en effet, et plutôt dans les lycées que dans les collèges.
Il n'y a pas des gars qui viennent te demander comment on peut s'évader ?
Alors, si, tout le temps, évidemment.
Ouais. À la Houdini.
Mais c'est assez super ce qui se passe dans les prisons, parce que le rapport, il est très direct avec eux, et le trouble est encore plus fort, parce que quand on vient au théâtre, on disait tout à l'heure, t'es protégé par le cadre. En prison, ils ne sont pas du tout protégés, ils arrivent et ils ont vraiment l'impression qu'on leur propose cette chose-là.
Ah oui, donc un manuel de développement personnel. Donc
ouais, c'est ça. Et donc, il y a un rapport qui se crée qui est très, très différent et qui est super intéressant.
Et donc, c'est un public que tu vas continuer à aller voir parallèlement au grand public, pardon ?
Oui, enfin, les deux m'intéressent. C'est très différent et du coup, je trouve ça très intéressant, les deux. En prison, je fais aussi des ateliers pour leur apprendre des expériences et c'est génial comment ils se les approprient et pour après pouvoir les présenter à leur famille, au parloir et tout ça, et de leur donner un peu de se montrer sous un nouvel angle auprès des familles. Je trouve ça aussi intéressant.
Et les adolescents ?
Les adolescents, c'est super. Eux, ils sont très premier degré quand ils voient Cérébro. C'est-à-dire que vraiment, à la fin, ils pensent que je vais pouvoir les aider et tout ça, même en déconstruisant. Après, il faut vraiment prendre le temps pour qu'ils sortent de ce premier degré. Surtout quand ils le voient au lycée, parce que pour le coup, encore une fois, ils sont à un endroit où on dit le vrai. Donc ça pose la question du cadre. C'est-à-dire que moi, j'arrive avec quelque chose de faux, mais eux, ils le prennent comme vrai, puisque c'est proposé dans leur cursus.
Après Paris et le Théâtre de Belleville, tu continues à tourner ce spectacle ? T'as des dates ?
Ouais, alors on joue à Charenton cette année, à Mitry-Mory, puis on va sûrement aller à Avignon cet été.
Un spectacle comme ça, il a une durée de vie de combien de temps ?
Oh, alors ça dépend, le plus longtemps possible.
Toi, t'as envie de le jouer longtemps ? En tout cas, tu t'en es pas encore lassé ?
Non, je m'en lasse pas. Moi. Tu sais, c'est très interactif. Je crois qu'il y a 8 personnes qui montent sur scène, que je garde avec moi d'ailleurs. Je sais pas si tu as vu, mais quand on rentre chez moi, on ne ressort pas. Et du coup, comme c'est très interactif, c'est toujours très différent. C'est hyper excitant de jouer ce genre de spectacle, parce que les gens font partie intégrante du spectacle. C'est des
acteurs. Ils réagissent jamais pareil, finalement ?
Il y a toujours des différences, hein. On est tous différents. Et pour moi, c'est vraiment des acteurs qui sont avec moi, qui sont en train de jouer le spectacle avec moi. Et eux, ils sont très... très honnête avec ce qu'ils sont en train de vivre, c'est assez beau de les voir. Je ne sais pas ce que tu en as pensé toi, mais de les voir sur scène, on les regarde beaucoup. En fait.
J'avais surtout pas envie. Ouais, j'avais à moitié envie d'être à leur place et pas envie.
Ouais, je pense qu'on passe notre temps aussi. Et d'ailleurs, la lumière dans le public, elle reste un peu allumée pour qu'on se sente comme ça un peu.
Entre les deux, ouais, entre l'envie et un peu la trouille, parce qu'on se dit qu'il leur arrive quelque chose d'exceptionnel quand même.
Ouais, on se dit qu'on a envie de comprendre comment ça marche et eux, ils doivent avoir plus de clés pour comprendre.
Et non.
Si, certain, ouais.
Bon, écoute, merci beaucoup d'être passé par le studio de Radio Campus. Mathieu Villatel, je rappelle le nom du spectacle, c'est Cérébro, actuellement au Théâtre de Belleville. Et c'est 11 € pour les moins de 26 ans. Voilà, c'était La Relève, c'était déjà le 7e épisode de la saison 4. L'émission était réalisée par le magicien de Radio Campus, Antonin, et oui, il faut le redire, présenté et préparé par Christophe. On se retrouve le deuxième lundi de l'âme du mois prochain. Et vous en saurez plus sur le site de Radio Campus Paris.